Vous écoutez RTL.
Et nous retrouvons donc Cyprien Cini pour Drôle de rencontre. Cyprien Cini, aujourd'hui avec Michel Bougelin.
Drôle de rencontre sur RTL, Cyprien Cini.
Au fil des ans, ces personnages de juifs tunisiens sont devenus des familiers. Bien avant le mariage pour tous, il élevait un bébé avec deux autres hommes, dans Trois hommes et un couffin. 35 ans qu'il combat sur scène l'angoisse par le rire, mais à 62 ans, il n'arrive toujours pas à se débarrasser de cette lueur d'inquiétude qui brille au fond de ses yeux. Il fait rire, mais aime les sujets graves, se tourne vers l'avenir en cherchant dans son passé. Rencontre avec un déraciné. Bonjour Michel Bougelin.
Bonjour.
Vous avez quitté la Tunisie à l'âge de 11 ans. Vous avez 62 ans aujourd'hui et on a l'impression que vous n'avez jamais vraiment fait le deuil de ce départ.
Avec le spectacle que je joue en ce moment, qui s'appelle Ma vie rêvée, je pense l'avoir fait. Mais on guérit jamais de ses blessures, on s'y habitue. La différence entre le jeune fou et le vieux sage, c'est que c'est pas que le vieux sage ne souffre plus. La différence, c'est que le vieux sage, il sait pourquoi il souffre et il connaît l'origine de ses souffrances.
Beaucoup de déracinés disent que c'est difficile de s'attacher à un endroit ensuite. C'est votre cas ?
Non, je suis très attaché à la France, je suis très attaché à la Tunisie, à Israël pour d'autres raisons. Je suis très attaché à Rome, je suis très attaché à la Corse. C'est vrai que je me sens de plein d'endroits, mais il y a plein d'endroits où je me sens bien. Mais le seul endroit, vraiment, où je m'identifie à 200% et où je ne pense plus à tout ça, c'est la scène. Et pourtant, sur la scène, je ne fais parler que de ça. Donc c'est bizarre. Mais mon vrai pays, c'est la scène.
C'est une thérapie ?
Non, parce que dans la thérapie, vous payez pour parler. Et là, on vous paye pour que vous parliez. Parce que là, c'est moi le médecin. C'est moi qui soigne le public. Je suis là pour faire rire. Je ne suis pas là pour me soigner moi.
Mais pourquoi vous avez eu autant de mal à vous accepter tel que vous êtes finalement ?
Vous foutez de ma gueule. Je veux dire, vous rendez compte combien c'est difficile ici ? On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont rien à foutre des accents. Ici, si vous ne ressemblez pas à l'image qu'on se fait d'un acteur normal, entre guillemets.
C'est quoi un acteur normal ?
Un acteur qui peut jouer à 20 ans Roméo et à 60 ans le Roi Lear. Voilà. Et moi, je ne rentrais pas dans cette case. Donc j'en ai énormément souffert. Quand on est en France, quand on arrive à 11 ans, qu'on a un défaut de langue et qu'en plus on a un accent juif tunisien coupé au couteau, dont on ne se rend pas compte, parce que pour moi, je n'ai pas d'accent pour moi. On se moque de vous, parce que l'image qu'on a de vous, elle est ridicule, elle est caricaturale. Je ne suis pas le fils d'un poète chilien en exil politique en France après le pouvoir quand Allende a fait le coup d'État. Je suis un petit juif tunisien qui arrive à Paris, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas le prestige. Donc pendant toute une période de ma vie, je n'ai pas voulu être qui j'étais. Pendant longtemps.
Ouais, quand après le bac, vous vous faites recaler de l'École nationale d'art dramatique de Strasbourg. C'est à cause de votre accent aussi.
J'en ai énormément souffert. Alors pendant des années, justement, j'essayais d'être ce qu'on me demandait d'être. Ou j'essayais d'être celui qui aurait été accepté à Strasbourg. Quand au bord du gouffre, j'ai dit bon, je vais faire encore un spectacle, s'il marche pas, j'arrête. Et que je fais Albert et que ça marche, je deviens hystérique là-dessus. Tout de suite, on m'a catalogué, on m'a remis une étiquette. Bon, c'est l'étiquette que j'avais quand j'avais 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je suis devenu le juif thune de service. Ils m'ont refait souffrir encore. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, même si je sais que je suis toujours pas grand-chose, malgré tout, j'ai forcé le respect. Parce que ça fait 36 ans que je suis là. Et si je réagis comme un bon méditerranéen, je les emmerde. Mais regardez, même si j'en m'en fous, même si j'ai le public, même si j'ai tout ça, vous croyez que j'ai pas de peine, par exemple, de pas être nommé au Molière ? Ça fait 36 ans que je fais ça. Je mérite pas que mes pères me disent « t'as bien travaillé ». C'est dégueulasse. Ça me fait de la peine. Je dors quand même. Hein. C'est pas la récompense qui m'intéresse le plus. J'échange pas tous les Molières du monde contre le succès public. C'est sûr que ma particularité joue pas en ma faveur.
Quand vous dites « je les emmerde », vous pensez à qui, Michel Bougelin ?
À plein. Oui, la liste serait trop longue. À plein. Vous savez, je vais vous dire un truc. Le jour où je vais m'arrêter, et un jour je m'arrêterai, dans 10 ans, 12 ans à peu près, je m'arrêterai, je dirai exactement ce que je pense. Pour l'instant, je dis pas ce que je pense encore. Vraiment. Le jour où j'aurai plus la peur de pas remplir mon théâtre, parce que je serai plus jamais invité nulle part, parce que je vais vous massacrer tous, je vais vous dire ce que je pense. Pour la plupart, globalement, quand je ferai ma tournée d'adieu, j'aurai plus d'angoisse. J'aurais plus rien à prouver. Et je sais même pas aujourd'hui comment le formuler, d'ailleurs. Je parle pas du public, là. Hein. Parce que le public, lui, il se pose pas toutes ces questions. Il s'en fout que je sois juif tunisien ou pas. Il est touché ou il est pas touché. Il rit ou il pleure. Mais ça s'arrête là.
Mais c'est quoi que vous avez en vous ? Parce qu'on n'imagine pas comme ça, mais c'est de la rancœur ?
Non, c'est pas de la rancœur. C'est parfois de l'indignation ou de la colère. Vous avez jamais eu envie, vous, de dire à des gens ce que vous pensiez ? Vous avez pas, vous vous êtes dit, bon, je vais fermer ma gueule, sinon je vais me faire virer. Ou qui n'a pas eu envie un matin de dire, mais toi, t'es un connard, toi. Tu peux mourir, je serais content. sans souhaiter véritablement sa mort. Mais voilà. Et c'est ça qui fait que je vais plutôt bien. C'est que j'arrive à rire de tout ça.
Dans votre carrière, il y a aussi des gens qui ont compté. Je pense à Lino Ventura. Il paraît que c'était votre partenaire de double au tennis. C'est vrai, ça ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, il n'était pas mon partenaire, j'étais le sien. J'étais à son service. On rigolait. Lino, il était partenaire de personne, c'était le patron. J'ai passé des moments super avec lui, super.
Mais comment vous êtes retrouvé à jouer au tennis avec lui, en fait ?
À Saint-Paul-de-Vence. À Saint-Paul-de-Vence, moi, je joue au tennis, et puis ils avaient besoin d'un quatrième, et Lino, il m'a dit que je connaissais un petit peu, parce qu'il connaissait un peu mon père, et il m'a dit « Demain, tu viens jouer au tennis ». J'ai dit « Mais je répète en ce moment. » Il m'a dit « Tu viens jouer au tennis, et après, tu répéteras ». Puis on a commencé à jouer comme ça, et c'était des moments merveilleux. Merveilleux, vraiment. C'est comme dans La Rose-Paupe du Caire de Woody Allen quand il rentre dans l'écran. Voilà. Je rentrais dans. En plus, c'était une image de père pour moi. Il était très différent de mon père et en même temps, il y avait beaucoup, beaucoup de liens, de choses communes avec mon père. Donc, c'était très agréable, vraiment. J'adorais cet homme.
Et vous vous souvenez du dernier selfie que vous avez fait ?
Le dernier selfie que j'ai fait, je crois que c'est avec un. C'est un gars dans une gare. Il m'a vu, il m'a fait on se prend photo.
On va en faire ensemble. Merci Michel Boujna.
Mais je vous en prie, je vous en prie.
Merci à vous Cyprien Sini pour cet entretien à retrouver sur RTL.fr. Et demain avec vous Cyprien Sini, c'est l'ancien trader Jérôme Kerviel qui sera l'invité de Drôle de Rencontre.